Kiosque Magazine.
Jeudi 14 mai, un matin absolument magnifique sur Montréal. Peut-être un peu frais, mais pour le pêcheur de doré que je suis, qu'est-ce que je vais être heureux sur le bord de la rivière ce soir. Bon, on va quand même vous parler d'économie d'emploi. On va parler de choses pas sérieuses, puisque c'est notre mandat. Quand je dis notre, évidemment, je parle d'Éric de Belleval et de moi-même, François Brodeur, qui assureront l'animation de cette émission. Mais pas sans mise en onde, ça c'est le fait de Rémi Hermoso, qui nous dit quoi faire, quand le faire, comment le faire, pourquoi le faire et jusqu'où le faire. Et finalement, quand arrêter. Vous allez tout voir ça dans le courant de l'émission. Éric, qu'avons-nous au menu cette semaine?
On revient un peu sur le pétrole, François. Ça fait un certain temps qu'on ne s'était pas douché à ce beau liquide. Alors, la controverse déclenchée par le projet de port pétrolier de Cacouna va-t-elle renaître sous une autre forme? Les investisseurs américains souhaitent construire au Saguenay une usine de liquéfaction de gaz provenant de l'Ouest canadien dans le but de l'exporter par navire méthanier. Et comme le demande le député péquiste Sylvain Gaudreau, après le pétrole des sables bitumineux, on veut maintenant lancer le Québec dans le transport de gaz naturel. Mais est-ce que nous devons devenir l'autoroute des énergies fossiles de l'Amérique du Nord? La question mérite d'être posée. Ensuite, je vous propose de prendre notre retraite. Ça, c'est un vrai beau sujet. Il arrive que la crise de la quarantaine coïncide avec une profonde remise en question de ses choix personnels ou professionnels et soit le moment d'un virage presque comparable à celui de la retraite. Et là, tout s'embrouille. L'âge des revenus, les perspectives, la réalité ou la faisabilité de ses désirs. Alors attention, cette crise existe vraiment. Elle survient parfois bien avant 40 ans, parfois plus tard. Elle est un vrai sujet de réflexion économique. Et pour finir en ce qui me concerne, eh bien, un petit tour en Asie. Et pour parler de quoi? Ah, ça, j'adore ce sujet. La saturation sur le marché chinois du smartphone. Et dans leur rubrique « Cette nuit en Asie », qui est toujours intéressante dans le journal Les Échos, eh bien, on nous annonce pas seulement le ralentissement des ventes de téléphones, mais plusieurs ralentissements majeurs. Les smartphones, oui, mais le recul d'énormes sociétés comme Sharp ou Toshiba. Eh bien, il semble que la consommation de produits high-tech rencontre une phase de saturation, un joli mot pour ne pas parler d'écœurement.
Et pour ma part, on vous parlait la semaine dernière du marché immobilier, du y a-t-il ou non une bulle immobilière. Eh bien, on va voir de quoi il retourne, mais sur la scène mondiale de l'immobilier, y a-t-il encore une place pour les jeunes qui aspirent à la propriété ou même pour les moins jeunes? Voilà, je vous parle également de réchauffement climatique. Réchauffement climatique parce que la Banque mondiale a émis un rapport en disant il est possible économiquement de contrer le réchauffement climatique. Il faut le faire à partir de maintenant, si on vous le dit tout le temps, évidemment. Mais il y a des choses à faire. Et quelles sont ces choses à faire? Pourquoi faut-il les faire? On voit ça un peu plus tard. Et pour commencer, il y a une fortune qui dort dans les jeunes cerveaux. Vous allez voir comment on pourrait doubler notre produit intérieur brut. Et ça commence dans quelques instants. Oui, bon, quand je dis doubler notre produit intérieur brut, vous devinez que c'est peut-être une exagération un peu grossière, mais il faut savoir que si on diplômait, c'est-à-dire qu'on formait adéquatement tous les jeunes au Canada, eh bien, en bout de carrière, leur rapport additionnel à l'économie canadienne serait l'équivalent de notre produit intérieur brut d'une année, ce qui est quand même pas banal. Je vous lis donc un texte d'Éric Desrosiers. Une fortune est enfouie dans les jeunes cerveaux. Ça a été publié le 13 mai dans les pages du Devoir. Le Canada serait plus riche de plusieurs centaines de milliards s'il s'assurait seulement que tous ses enfants acquièrent les connaissances minimales en mathématiques, en lecture et en sciences nécessaires pour fonctionner dans une économie moderne, estime l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Environ 13 % des petits Canadiens ne sont pas parvenus à passer le seuil minimal en mathématiques et en sciences la dernière fois que l'Organisation de coopération et de développement économique a conduit son enquête auprès des élèves de 15 ans. Si tous les futurs enfants parvenaient au moins à passer ce cap, le Canada y gagnerait plus de 1 500 milliards lorsque les premiers prendraient leur retraite, soit presque la taille actuelle de son économie, ou 0,14 point de pourcentage de croissance supplémentaire chaque année, conclut un nouveau rapport de l'OCDE intitulé Universal Basic Skills. Plus en retard en la matière, les États-Unis, une fois et demie leur économie, la France, deux fois, et même la Suède, ça c'est étonnant, deux fois, y gagneraient encore plus. Mais ce n'est rien en comparaison de certains pays riches fortement dépendants des ressources naturelles, comme l'Arabie saoudite, ce serait 10 fois la taille de son économie, et Oman, 15 fois, ou de plusieurs pays en développement, comme le Brésil 7 fois, l'Indonésie 9 fois, l'Albanie 9 fois, l'Afrique du Sud 26 fois, ou le Ghana 39 fois, où l'on n'est pas seulement prise avec une formation déficiente, mais plus simplement aussi avec un taux de participation scolaire souvent beaucoup plus bas. La qualité de la formation scolaire dans un pays se révèle un puissant indicateur de la richesse que produiront les pays à long terme. Note en introduction le père du rapport de l'OCDE, Andreas Schleicher. On parle beaucoup de l'importance de la formation de pointe en cette ère d'économie du savoir et de l'innovation, mais on ne souligne pas assez que, ne serait-ce que pour être en mesure de reproduire et d'appliquer les innovations des travailleurs les plus compétents, les pays ont besoin d'une main-d'œuvre disposant au moins des compétences de base. Le fait de valoriser à la fois l'excellence et l'équité en éducation apparaît ainsi se renforcer mutuellement. Obligés de composer avec les données disponibles sur les 76 pays étudiés, les auteurs du rapport n'ont tenu compte que des résultats obtenus dans les tests internationaux en mathématiques et en sciences. Cela ne veut pas dire que d'autres compétences souvent mesurées, dont la lecture et l'écriture, sont moins importantes, disent-ils. Au contraire, l'évolution de l'économie et de nos sociétés étant ce qu'elle est, il faudra même trouver, selon eux, une façon d'élargir la mesure des compétences à d'autres dimensions cognitives, sociales et émotionnelles. L'étude ne s'arrête pas aux sociétés infranationales comme le Québec, qui a l'habitude de très bien se classer dans les tests internationaux de compétences. Un rapide coup d'œil aux dernières enquêtes fait toutefois croire que si les élèves québécois font globalement mieux que les autres Canadiens, notamment en mathématiques, la proportion de ceux qui ne passent pas le seuil minimum est sensiblement la même. Dans son étude, l'OCDE décrit ce seuil minimum comme les compétences élémentaires nécessaires pour lire et comprendre un texte simple, ainsi que maîtriser les concepts et procédures mathématiques et scientifiques de base. Une bonne formation de base n'aide pas seulement la création de la richesse, elle en favorise aussi une meilleure répartition. En plus d'avoir un accès extrêmement restreint aux emplois plus valorisants et mieux payés, les travailleurs n'ayant pas les outils de base présentent généralement aussi une moins bonne santé, estiment avoir une influence politique moindre et participent moins à la vie de la communauté. L'idée que les pays peuvent s'améliorer n'est pas un rêve, dit l'OCDE. Le Brésil, le Mexique, la Tunisie et la Turquie ont fait des bonds de géants en la matière ces dernières années. Des chefs de file comme la Corée du Sud et Singapour ont aussi creusé leur avance sur les autres. Au-delà d'un certain seuil, que tous les pays développés ont passé depuis longtemps, la question n'est plus combien d'argent est investi en éducation, mais comment il est dépensé, constate l'OCDE. Par exemple, chaque fois que les meilleurs systèmes ont eu à choisir entre de plus petites classes et de meilleurs enseignants, ils ont choisi la deuxième option. La qualité d'un système scolaire ne dépasse jamais la qualité de ses enseignants. Les pauvres ne sont pas non plus condamnés à faire moins bien que les riches. En fait, les 10 % des enfants les plus défavorisés à Shanghai, en Chine, ont de meilleurs résultats aux tests internationaux que les 10 % les plus riches aux États-Unis, ainsi que dans plusieurs pays européens. Et je vous lis tout ça donc à une époque où au Québec, on coupe massivement, notamment en éducation. On voyait que la CSDM était obligée de mettre à pied pas loin, je pense, de c'est pas loin de 1000 personnes. Non, c'est Bombardier, ça. Et ça va se répercuter, évidemment, sur les services aux élèves, la qualité de l'encadrement pédagogique. Bon, évidemment, il n'y a pas de coupure de service, c'est le ministre de l'Éducation qui le dit.
Ah, c'est de la folie. Un pays qui ne sanctuarise pas ses dépenses d'éducation est un pays qui court au suicide.
Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'hydrocarbures, alors on va se permettre une petite pause, on va se lâcher l'ousse, comme on dit au Saguenay. Et justement, c'est au Saguenay qu'on va, puisque jusqu'à maintenant, il y avait de l'eau dans le gaz, et là, il pourrait y avoir du gaz dans l'eau.
Ah, le dieu de l'énergie! Quel sacrifice n'est-on pas prêt à faire pour conserver ces bonnes grâces? Mais est-ce qu'on doit accepter vraiment n'importe quelle contrainte, voire n'importe quelle perturbation ou destruction environnementale au nom de ce grand Dieu? Je ne suis pas certain. En tout cas, c'est une question que pose fort justement Alexandre Shields dans un article du Devoir, qui s'appelle « Après le pétrole, le gaz de l'Ouest ». Après le pétrole, le gaz naturel. Des investisseurs américains souhaitent construire au Saguenay une usine de liquéfaction de gaz provenant de l'Ouest canadien dans le but de l'exporter par navire méthanier. Leur entité locale, GNL Québec, vient d'ailleurs d'inscrire des mandats de lobbying afin d'obtenir les permis nécessaires, mais aussi, entre guillemets, le soutien financier du gouvernement. Ce projet de 7,5 milliards de dollars entraînerait une hausse du transport d'hydrocarbures dans le seul parc marin de la province. Le projet, nommé Énergie Saguenay, prévoit l'implantation d'infrastructures de liquéfaction, d'entreposage et de transbordement de gaz naturel dans la zone portuaire de Grand-Anse, située à la baie au Saguenay. Ce port en eau profonde est situé à une quinzaine de kilomètres à l'est de Chicoutimi. C'est là que serait construite l'usine qui servirait à liquéfier les 11 millions de tonnes de gaz naturel exportées chaque année à bord de méthaniers de type Q-Flex. Ces imposants navires peuvent transporter, tenez-vous bien, 217 000 mètres cubes de gaz. Ils atteignent une longueur de 297 mètres et une largeur de 45 mètres. Selon les documents de présentation d'Énergie Saguenay, jusqu'à 160 de ces navires remonterait chaque année la rivière Saguenay, soit trois ou quatre par semaine. Je sens votre cœur de pêcheur s'accélérer là, François. Hein, c'est terrible, ça. Chemin faisant, il traverserait le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, une aire marine protégée, mise en place pour protéger l'habitat du beluga du Saint-Laurent. Même si eux, vous ne les pêchez pas, vous êtes solidaires, je le sais. En calculant les allers et les retours, on parle de 6 à 8 passages par semaine. Pour approvisionner le complexe industriel, les promoteurs misent sur la construction d'un gazoduc d'un mètre de diamètre et d'une longueur de 650 km. Celui-ci se connecterait à un gazoduc opéré par TransCanada Pipelines. Il transporterait du gaz provenant des zones exploitées dans le Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Dans ces régions, l'exploitation de gaz naturel dit « non conventionnel » dont le gaz de schiste est en pleine croissance. C'est bien un non conventionnel, on dirait que c'est, voilà, c'est un peu marginal, un peu révolutionnaire. Pas dangereux du tout. Si tout se déroule selon la volonté des investisseurs américains, qui sont derrière GNL Québec, les exportations de gaz de l'Ouest par voie maritime débuteraient dès 2020. On vise notamment les marchés européens et indiens. Une demande de permis d'exportation a déjà été déposée auprès de l'Office national de l'énergie. L'Office examine actuellement la demande de GNL Québec et la période de commentaires prévue dans ce cas se termine le 19 mai 2015. Aussi, l'examen n'est assujetti à aucun délai et nous devrons prendre le temps voulu pour rendre une décision éclairée, a précisé l'ONE par courriel. Le Devoir a également constaté que GNL Québec a inscrit 4 lobbyistes en lien avec le projet Énergie Saguenay et ce en date du 4 mai. Leur mandat comprend les démarches en vue d'obtenir l'ensemble des permis requis en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, c'est le certificat d'autorisation, et les autres lois encadrant les activités de construction et d'exploitation d'un terminal de liquéfaction de gaz naturel pour l'exportation. La fiche précise aussi leur souhait d'obtenir de la puissance hydroélectrique ainsi que du soutien financier gouvernemental disponible en vertu des programmes existants et qui sont gérés soit directement par les ministères ou encore indirectement par des organismes comme Investissement Québec. Avant de parvenir à une mise en service de ce nouveau circuit d'exportation d'énergie fossile, des études évaluées à 250 millions de dollars devront être réalisées, a expliqué vendredi Marie-Claude Lavigne, directrice des affaires publiques chez GNL Québec. « Nous sommes dans les premières phases du développement », a-t-elle insisté. Selon Lavigne, le projet est certes ambitieux, mais il demeure modeste lorsque l'on compare à d'autres projets du genre développés ailleurs dans le monde. « Je crois que c'est un projet porteur pour le Québec », a-t-elle ajouté. Selon les prévisions de l'entreprise, la construction de l'usine devrait générer 4000 emplois directs et indirects. On s'attend à maintenir 800 emplois directs et indirects en phase d'exploitation. Est-ce que GNL Québec redoute que son projet soulève la controverse comme cela a été le cas avec le projet de port pétrolier de Cacouna ? Ce n'est pas du pétrole, c'est un hydrocarbure, mais ça n'a rien à voir. Par exemple, il n'y a jamais eu de fuite de méthanier, a répondu Marie-Claude Lavigne. Il n'y aurait pas de risque de fuite qui affecterait la rivière Saguenay, estime en outre celle qui a déjà été directrice de cabinet adjointe du ministre libéral Jean-Marc Fournier. Le projet devrait éventuellement être soumis à une évaluation fédérale, mais aussi à une étude menée sous l'égide du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Mais pour le moment, GNL Québec n'a pas déposé d'avis de projet auprès des autorités fédérales et provinciales, a fait savoir sa directrice des affaires publiques. Des consultations ont toutefois été menées et le siège social de l'entreprise a été implanté au Saguenay. Les visées des investisseurs suscitent d'ailleurs certaines inquiétudes. Le groupe citoyen Boréalisation s'est déjà prononcé contre Énergie Saguenay. Il doit avoir un véritable débat, puisqu'il existe des risques réels pour l'environnement, mais aussi pour la santé publique, a souligné son porte-parole Philippe Dumont.
Pour le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreau, le projet est trop peu connu, surtout compte tenu de son ampleur. Selon lui, le Québec devra mener un examen rigoureux de ce nouveau projet, mis de l'avant pour répondre aux besoins de prise en marché des producteurs d'hydrocarbures. Alors effectivement, est-ce qu'il faut devenir une autoroute de transport de l'énergie comme
ça? Est-ce qu'il faut justement en pleine période d'austérité investir des fonds publics pour aider la Saskatchewan et l'Alberta à sortir des gaz non conventionnels à travers la plus belle réserve naturelle au Québec? Et c'est pas seulement pour les balouis et belugas, celle-là. Elle est également capitale pour l'approvisionnement des baleines. Bon, bien évidemment, un port méthanier de cette ampleur-là pourrait pas être construit en amont de Québec, le fleuve ne le permettant pas. Mais tant qu'à réfléchir actuellement sur, on passe un nouveau pipeline éventuellement sur, qui va aller vers le Nouveau-Brunswick, est-ce qu'on ne peut pas en passer deux sur la même emprise pour mettre du gaz naturel aussi? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir globalement à toute la question des exportations plutôt que de faire des projets à la pièce qui vont s'incruster dans le paysage de façon durable et peut-être le compromettre durablement?
Certainement. Et en tout cas, on voit déjà débuter la comédie des autorisations données trop rapidement, des études mal faites et faites trop vite, et puis de la soi-disant impossibilité de revenir en arrière de décisions prises beaucoup trop hâtivement.
Et je vous rappelle qu'on a privé l'Office national de l'énergie de la compétence requise pour évaluer un projet autrement qu'en termes de profitabilité. C'est-à-dire que l'Office national de l'énergie ne peut pas se demander est-ce que ça va favoriser l'émission de gaz à effet de serre, par exemple. C'est devenu une question non pertinente. On ne peut pas en parler. C'est complètement évacué. Alors, il y a plein de choses à faire là-dedans.
Prends le Saguenay, mets-le dans des petites bouteilles numérotées. J'ai besoin d'une source pour continuer le voyage. Passer sa vie à vouloir tout emporter. Le bout de soleil qui me plombe sur le nez. Les Monts-Valais, prends la vallée des fantômes, prends la tête de chien, à cuillère et dans un grand sac pour le chemin. Passer sa vie à vouloir tout emporter, les fragments de la beauté qu'on a pu croiser. Ça c'est la vague qui me pousse et me ramène, c'est ma rivière, ma douceur, c'est ma montagne, ma démesure, c'est ma musique, c'est ma chanson, c'est tout ça qui brasse toujours en moi. Sa petite bourgeoisie qui fait envie, ses chômeurs en pick-up, ses petites filles stock-up. Passer sa vie à vouloir tout emporter, surtout les petites du lycée qui en ont envie. Rivière Langevin, Sainte-Marguerite, Ashuap, Mouchouane, Chicoutimi, Lac Kenogami, Grenon, Saint-Jean, Lac des Brumes. Passer sa vie à vouloir tout emporter, les gouttelettes de la mer, de la tranquillité. Ça c'est la vague qui me pousse et me ramène. J'ai sué des lacs, des rivières, bûché des villes imaginaires, fait des chansons toutes de travers pour enfin me rendre jusqu'à toi. Ça c'est le sas dans lequel je passe mon écoutille d'épinette qui me calme, qui me transforme jusqu'au moment où dans le soir la lumière vient et je descends jusqu'à moi.
Guy-Philippe Wells, Saguenay Dry. Avant de vous parler de mon prochain texte, je vais vous parler d'un conseiller du premier ministre australien. Je ne résiste pas à la tentation. Le conseiller du premier ministre australien, donc un conseiller très écouté, qui s'appelle Maurice Newman, pour être précis, eh bien, c'est ce qu'on appelle un climato-sceptique. Pour lui, tout ce qui est lutte au changement climatique actuellement, c'est un lobby mené par l'ONU qui est anticapitaliste et qui veut priver de leur pouvoir les États-nations afin de créer un nouvel ordre mondial qui nuirait aux libertés et aux capitalisme. Évidemment, dans cette perspective-là, le réchauffement climatique, c'est du bidon d'un travers à l'autre. Bon, ce qui est inquiétant, c'est que ce mec-là est écouté du premier ministre australien, enfin. Ceci dit, la Banque mondiale, qui est l'organisme issu des accords de Bretton Woods, qui est plus spécialement chargé de développement international, la Banque mondiale a émis un rapport cette semaine qui dit que oui, on peut contrer de façon économique le réchauffement climatique. Éric Desrosiers nous en parle dans le Devoir du 12 mai, les conditions à réunir pour remporter la bataille du climat. Bien qu'essentiel pour s'adjoindre les forces du marché, la tarification du carbone ne sera pas suffisante pour remporter sur le terrain la bataille contre les changements climatiques, prévient un rapport de la Banque mondiale. Contrairement à ce qu'on entend souvent dire de leurs opposants, les mesures pour réaliser la transition vers la réduction des émissions nettes à zéro ne seront pas trop coûteuses si les États s'y mettent dès aujourd'hui, mais augmenteront de 50 % si l'on attend encore 15 ans, affirme le rapport d'experts intitulé « Decarbonizing Development, Three Steps to a Zero Carbon Future », pardon pour mon anglais, et dévoilé lundi. Les pays devront toutefois respecter trois grands principes s'ils sont sérieux dans leur volonté de garder le réchauffement climatique sous la barre fatidique des 2 degrés Celsius et s'ils veulent avoir des chances de succès dans le monde réel. L'un de ces principes est de se servir du signal des prix et des forces du marché pour provoquer des changements en matière d'investissement, de technologie et de comportement. On pense immédiatement à la tarification du carbone, que ce soit par l'imposition d'une taxe ou la mise en place d'une bourse d'échange de droits d'émission. Mais cela ne sera pas suffisant, note-t-on. Les dysfonctions du marché et des pouvoirs publics en la matière sont trop importantes pour qu'on ne doive pas recourir aussi à d'autres moyens pour relever le niveau de réponse des entreprises et des individus. Il faudrait commencer par réduire les milliards donnés chaque année en subventions aux carburants fossiles et, pourquoi pas, les rediriger par le développement d'alternatives vertes. Les technologies existantes devraient permettre de respecter les cibles fixées jusqu'en 2050. Mais après, de nouvelles technologies, notamment de captage du carbone, devront avoir été trouvées pour continuer de progresser. L'imposition de normes plus élevées, de codes techniques et de cibles de performance, comme on l'a déjà fait pour les constructeurs de voitures ou les fabricants d'ampoules, serait aussi utile. La transition vers une économie plus verte n'a pas à coûter tellement plus cher, assurent les auteurs du rapport de la Banque mondiale. Après tout, des centaines de milliards devront, d'une manière ou d'une autre, être investis dans les prochaines années dans la modernisation et l'augmentation de la production d'énergie, dans le développement économique ou encore dans l'agrandissement des villes. Un enjeu central est de savoir si ces investissements prendront le virage vert ou s'ils nous verrouilleront pour des dizaines d'années encore dans d'anciennes façons de faire. Ce virage vert devrait se révéler profitable au-delà de l'environnement parce qu'il réduira les maladies liées à la pollution, augmentera la production agricole, diminuera les congestions routières et renforcera l'autosuffisance énergétique des pays. La différence de coût pour les entreprises privées ne devrait pas être tellement grande non plus, estiment les auteurs du rapport, bien moins grande en tout cas que ce qu'elles sont prêtes à payer pour trouver de bonnes infrastructures de production ou une main-d'œuvre formée. Naturellement réfractaires au risque et à l'incertitude, elles ne s'engageront dans le virage vert que si elles sont convaincues du sérieux de l'engagement des pouvoirs publics. Une bonne preuve de ce sérieux serait la conclusion d'une entente internationale, dit-on, à quelques mois de la tenue de l'importante conférence sur le climat de Paris. Une autre façon pour les gouvernements de prouver leur sérieux et un autre grand principe d'action, selon les experts de la Banque mondiale, est de planifier ses politiques sur la base de l'objectif final qui a pour horizon la fin du siècle et pas seulement en fonction de cibles à plus court terme qui peuvent permettre de faire illusion pendant un temps sans entreprendre les changements fondamentaux nécessaires. L'objectif est de ramener les émissions à zéro en 2100 et non de les réduire de façon marginale au cours des prochaines décennies. Cela implique des mesures très différentes, notamment une transformation structurelle et spatiale de nos économies, a souligné Marianne Fay, économiste en chef à la Banque mondiale et co-auteur du rapport. Il est important aussi de se soucier de l'impact que pourraient avoir ces transformations sur certaines populations, régions ou industries, écrit-elle avec ses confrères en guise de troisième et dernier grand principe que les gouvernements devraient respecter. On en appelle, entre autres, au nom de la solidarité et de l'équité, à la mise en place de transferts sociaux et de mécanismes de transition, en faveur notamment des plus démunis, mais aussi des populations dont l'économie dépend fortement, par exemple, des carburants fossiles. Les gouvernements devront faire preuve de réalisme politique aussi, constate-t-on. Les gains de la lutte contre les changements climatiques promettent d'être diffus dans l'ensemble de la population et même de s'étendre aux générations futures, alors que ces impacts négatifs risquent d'être beaucoup plus concrets et soulever l'opposition de lobbies riches et influents. Les experts de la Banque mondiale proposent qu'on s'inspire d'expériences passées pour adoucir ces impacts négatifs en appliquant, par exemple, certaines mesures environnementales qu'aux nouveaux projets et en finançant d'importants programmes de transition dans certains secteurs. Finalement, c'est le lièvre et la tortue. L'important, c'est de partir tout de suite et ça fera pas trop mal. On n'aura pas à courir, on n'aura pas à se désarmer, on pourrait y parvenir. Mais encore faut-il le vouloir et le vouloir maintenant.
Quelques nouvelles d'Internet et des mauvaises nouvelles. François, vous avez certainement idée que Internet, vous y aurez accès comme ça toute votre vie sans aucun problème et rapidement. Eh bien, détrompez-vous, figurez-vous que les câbles commencent à être saturés et une étude prévoit que d'ici 8 ans, c'est tout Internet qui risque d'être saturé. C'est très sérieux, alors attention, mais au fond, c'est peut-être une bonne nouvelle.
On parlait récemment de la sortie du maire de Saguenay qui s'inquiétait des limitations qu'on met à l'exploitation forestière, qui a fait perdre la certification à Résolu, qui fait perdre des emplois au Saguenay, tout ça à cause des verts et des écologistes qui veulent protéger le caribou forestier. Eh bien, sachez que le forestier en chef du Québec a lui-même attaché le grelot cette semaine en signalant que l'habitat du caribou forestier est compromis à plus de 70 % de ce qui reste actuellement. C'est toute l'espèce qui serait en voie de disparition, notamment sur la côte nord, puisque c'est fragile comme espèce et qu'elle pourrait disparaître. Et c'est emblématique de toute la forêt boréale au nord du fleuve. Voilà qui termine la première moitié de cette émission. Restez avec nous après la pause. On vous parle de retraite, de logement et de smartphone en Chine. Dieu que j'ai hâte.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Et nous voici de retour pour vous parler de votre vie. De votre vie, pourquoi? Parce que vous allez peut-être aborder sous peu les 40 ans fatidiques, ce qui est fait dans mon cas. J'ai passé la crise de la quarantaine et j'ajouterais que le démon du midi est en train de rentrer à la niche. Mais si vous arrivez à la quarantaine, vous vous posez peut-être des questions sur ciel. Que vais-je faire de ma vie? Dois-je changer? Dois-je continuer à faire ce boulot ennuyant tout le restant de mes jours? Et si oui, est-ce que ça va me coûter quelque chose? On ne se pose pas cette question-là, Eric. Est-ce que ça va me coûter quelque chose?
Oui, mais pour paraphraser ce que vous venez de dire en termes si poétiques, effectivement, la crise de la quarantaine touche tout le monde à un moment donné, avec plus ou moins d'intensité. Alors, simple turbulence passagère ou grosse tempête, c'est souvent un sujet de plaisanterie, de blague hein, dans les films, voire dans les bureaux. Pourtant, ces impacts financiers sont bien réels et peuvent menacer, alors menacer quoi? Eh bien, tout simplement la retraite, et même la plus planifiée des retraites. Ça a intéressé Fanny Borel dans « Les affaires ». Des chercheurs australiens, décidément, nous intéressent beaucoup aujourd'hui, ont compilé les niveaux de bonheur mesurés lors de sondages réalisés en Australie, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Partout, le bonheur suit une courbe en U, dont le creux est atteint entre 40 et 42 ans en moyenne.
mais la crise de la quarantaine débute parfois dès la fin de la trentaine et elle dure de quelques mois à plusieurs années. C'est un âge névralgique où les personnes traversent une profonde remise en question de leur choix de vie, explique José Blondin, psychologue organisationnel, beau métier, et co-auteur du guide « Tomber à la retraite ».
J'imagine toujours un organigramme sur un divan quand on dit ça.
Confrontés aux premiers signes de l'âge et à leurs regrets, elles tendent à ressentir une urgence de vivre. En bout de ligne, la planification de la retraite en prend souvent un coup. Surtout que c'est en général à partir de la quarantaine que les gens commencent à penser sérieusement à leur retraite. Or, laisser passer le train sans sauter dans un wagon, c'est risquer de ne jamais arriver à la destination retraite au soleil. L'image est forte, mais peut-être proche de la réalité. La crise de la quarantaine se manifeste souvent par un désir de changer de carrière. Se lancer à son compte ou retourner à l'université pour enfin se donner les moyens de ses ambitions n'est pas sans conséquence sur la retraite. Baisse de salaire, dette d'études à rembourser ou perte de régime de retraite offert par l'employeur, il est essentiel de tenir compte de ces répercussions et d'adapter son train de vie afin de ne pas mettre sa retraite en danger. Pour certains, le virage professionnel peut même tourner au cauchemar. Quitter un emploi stable pour assouvir un vieux rêve est un choix risqué. J'ai vu l'exemple d'une femme qui a acheté un commerce, mais sans trop savoir comment gérer une entreprise, raconte Éric Lebel, conseiller en redressement financier et syndic de faillite chez Raymond Chabot Grant Thornton. Les ventes n'étant pas à la hauteur, elle a réinjecté des fonds personnels. Mais le magasin a fini par fermer et elle s'est retrouvée en faillite. Les RER comme les fonds de pension sont protégés en cas de faillite, mais la perte des actifs et les dépenses nécessaires pour les reconstituer viennent gruger les possibilités de mettre de côté pour sa retraite. Heureusement, la majorité des gens touchés par la crise de la quarantaine évitent la catastrophe financière, mais pas les dépenses qui s'enchaînent. Leur mal-être se traduit parfois par une coûteuse fuite en avant, multiplication de voyages, achat d'un bateau ou traitement anti-âge à répétition. Résultat, l'endettement se creuse plus vite que leurs rides et la capacité d'épargne en vue de la retraite diminue autant que le nombre de cheveux sur leur crâne. Mais dans la plupart des cas, ce sont les séparations qui viennent le plus faire dérailler la planification de la retraite. Entre les remises en question existentielles et les infidélités avec la gardienne, les couples sont souvent les victimes collatérales de la crise de la quarantaine. L'impact des divorces est important, indique François Morancy. Partager les régimes de retraite et les RER en deux réduit de moitié l'argent accumulé pour la retraite. Retrouver la liberté du célibat nuit aussi à sa capacité d'épargner. C'est une conséquence financière rarement bien anticipée par les gens. Le coût de la vie de base est d'environ 2 000 $ par mois pour une personne seule contre 2 500 $ pour un couple, estime Éric Lebel. Si le couple gagnait ensemble 4 200 $, se séparer laisse peu de marge pour mettre de côté pour sa retraite. Sans compter ce qu'on partageait à deux et qu'il faut donc racheter. Si le revenu disponible pour épargner baisse, l'envie de dépenser suit la courbe inverse chez bien des individus. Faire chauffer la carte de crédit donne l'impression de compenser le vide, la tristesse et la colère engendrées par la séparation. J'ai vu le cas d'une personne dans la quarantaine qui, incapable de faire face à la douleur, a joué au casino les 28 000 $ de son RER, se rappelle-t-il. Moins on s'accorde le temps de s'arrêter régulièrement pour faire le point sur sa vie, et plus la crise de la quarantaine risque de frapper fort. Prendre du recul pour se questionner sur les choix effectués et ses aspirations pour le futur sont indispensables. Il faut se faire ce cadeau-là avant que ça ne fasse, insiste la psychologue José Blondin. Enlevez-moi d'un doute là. Avant que ça ne fasse...
Que ça ne frappe.
Avant que
ça ne frappe un bon Québécois.
D'accord. J'en apprends tous les jours. On peut même aller consulter pour nous aider à faire le ménage dans notre vie et à nous repositionner par rapport à nos objectifs et à nos rêves. Avant de se lancer dans des dépenses irréfléchies, prendre rendez-vous avec son conseiller financier peut être utile pour éviter de mettre sa situation financière à risque. Car il ne faut pas oublier qu'à 40 ans, il reste encore la moitié du chemin à parcourir avant la retraite. Dites-moi, là, 80 balais pour la retraite, c'est tard dans l'article. On oublie que l'espérance de vie est plus grande qu'avant, d'accord, et que le risque de survivre à son capital existe. Survivre à son capital. Ah ouais, je savais qu'on pouvait épouser quelqu'un, mais pas qu'on pouvait épouser un capital. La crise de la mi-vie est déroutante, mais attention à ne pas se laisser emporter par elle sous peine de voir son rêve de retraite pleine de croisières ruinées et de subir la crise de la soixantaine, la mienne. Bon, ne vous inquiétez pas. Mais moi, je conclus deux choses de cet article. La première, c'est que quand même, on a tort de vouloir à tout prix mélanger du rationnel et de l'irrationnel. C'est difficile à prendre. Et la deuxième, c'est juste un petit conseil. Ne vous demandez plus s'il y a une vie après la mort. Demandez-vous s'il y a une vie avant la mort.
Et c'est la question que je me posais, parce qu'on a l'impression que la retraite est l'objectif de toute existence. Or, vaut-il mieux écouter ses rêves ou son comptable? Vaut-il mieux vivre, avoir des regrets ou des remords?
Si on doit se poser la question, c'est terrible.
Allez, logement à travers le monde, et je vous ramène tout de suite en Australie, puisque le texte de Richard Dupol, intitulé « Une génération de molles logées » est paru dans la presse du 11 mai, commence en disant « Des plages sans fin, du soleil, la grande barrière de corail ». Ceux qui rêvent d'acheter une maison en Australie pour fuir l'hiver québécois à leur retraite devraient noter cette mise en garde. Désormais, les étrangers qui contreviennent à la loi en achetant une propriété australienne pourraient être condamnés à 3 ans de prison et ou à des amendes de plus de 120 000 $. Ce qui est un petit peu tordu d'ailleurs parce qu'on dit « tu peux pas te loger chez nous, alors on va te loger pendant 3 ans en prison ». Il y a comme un nom. Enfin... Le pays d'en dessous a annoncé la semaine dernière ses mesures draconiennes qui visent les acheteurs de maisons existantes. C'est ainsi que l'Australie entend dégonfler la gigantesque bulle immobilière qui prend forme sur son territoire. De riches étrangers, pour la plupart chinois, sont accusés de faire monter les prix de l'immobilier, notamment à Sydney et à Melbourne, le marché résidentiel devenant hors de portée pour les Australiens, les jeunes surtout. Après un bond de 70 % depuis 10 ans et de 125 % durant la décennie précédente, la flambée des coûts de la brique et du mortier fait de Sydney l'une des métropoles les plus chères du monde, selon la firme Coral Logic. Aussi, un jeune ménage qui convoite une maison à Sydney devra-t-il consacrer 65 à 70 % de ses revenus nets après impôt au remboursement de son hypothèque, même avec des taux d'intérêt au plancher? Autrement dit, une maison à Sydney à un prix médian de 800 000 $ canadiens, c'est pas achetable pour un jeune, diraient plusieurs Québécois. Or, acquérir une maison devient un rêve de plus en plus inaccessible dans plusieurs pays. Dans une étude de la Réserve fédérale de Dallas, qui brosse un portrait démoralisant de l'immobilier mondial, il en ressort que la hausse des prix dépasse largement la croissance des revenus des ménages dans 15 des 23 pays étudiés, soit plus de 3, presque 4 points contre 1,8% pour la hausse des revenus. Dans une analyse l'automne dernier, le McKinsey Global Institute aux États-Unis sonnait l'alarme en prédisant que d'ici 2025, 440 millions de ménages dans les centres urbains de la planète vivraient dans des logements inadéquats, soit 110 millions de plus qu'actuellement. Les causes? Les prix élevés de l'immobilier et le manque de logements abordables. Pour sa part, la Fédération européenne du logement social a publié, mardi dernier, un rapport détaillant comment la crise économique complique l'accès au logement. Dans les pays du Sud, la proportion des 18 à 35 ans vivant chez leurs parents est, par exemple, de 66 % en Italie, de 58 % au Portugal, de 55 % en Espagne. Et là, on parle de jeunes de 18 à 35 ans. Au Canada, les difficultés d'accès à la propriété sont bien documentées. Mince consolation pour nos jeunes, le phénomène est encore plus alarmant dans certains pays. Voici des exemples. En France, 7 jeunes sur 10 font face à des difficultés d'accès au logement selon une récente enquête de l'Observatoire de la jeunesse solidaire. Le prix de l'immobilier a tellement augmenté, à Paris notamment, que le nombre de jeunes ménages accédant à la propriété recule de manière particulièrement rapide, déplore l'Observatoire Crédit Logement. Ainsi, les moins de 35 ans ne représentent que 44,8 % des acheteurs en 2014 contre 52 % en 2009. Chez nos voisins du Sud, la situation est au trimestre 2015, la part des Américains propriétaires de leur logement est tombée à 63,7 %. C'est un creux de plus de 20 ans, selon la National Association of Realtors. Quelle est la cause? La stagnation des salaires et les prix des maisons. La situation est préoccupante dans les grandes villes et dans certains États, comme la Californie, où le prix des maisons, 440 000 $américains en moyenne, est 2 fois plus élevé que la moyenne nationale. Aussi, le taux de propriété à l'échelle du pays chez les 18-34 ans est passé de 17 % à 13 % cette année, estime le Bureau des statistiques à Washington. C'était l'un des sujets chauds au Royaume-Uni lors de la dernière campagne électorale. Le Royaume-Uni subit une crise du logement très aiguë à Londres. En effet, le taux de propriété au pays est passé de 70 à 64 % de la population depuis 10 ans. Si bien qu'on surnomme les jeunes la génération location. En 2001, 58 % des 25 à 34 ans étaient propriétaires selon les statistiques officielles. Ils sont moins de 40 % aujourd'hui. Et l'industrie de la construction n'aide pas. Elle n'a construit que 140 000 logements en 2013 contre 200 000 en moyenne dans les années 90 et 380 000 à la fin des années 60. Il faudra donc des années avant de rétablir l'équilibre du marché. Voilà.
Je suis venu ici parce que l'air du dehors, quand l'hiver s'installe, change de profil, semble sortir d'un réfrigérateur. Quand l'hiver s'installe, change de profil, moi qui suis toujours dans le trop. La profusion des sentiments, des émotions, cet air glacé me fait du bien. Je suis venu ici parce que l'air du dehors, j'aime mes idées noires. Je semble sortir d'un réfrigérateur. Quand l'hiver s'installe sur ma terre d'asile, moi qui suis toujours dans le tout. La confusion des sentiments, des émotions, cet air glacé me fait du bien. Je suis venu ici parce que l'air du dehors nettoie mes armoires, change le soleil, sorbet citron au réfrigérateur. Glace qui brille, moi qui suis toujours dans le rouge. L'ébullition des sentiments, des émotions, cette lumière givrée me fait du bien.
On parle maintenant d'économie chinoise et on pourrait en parler sous divers angles puisque la grande économie chinoise, la réalité chinoise fait en sorte qu'on a développé quelque chose de colossal pour l'exportation et que tout le défi maintenant, c'est de faire en sorte que cette économie-là serve sa propre population et devienne une économie de consommation, ce qui est la seule solution viable à long terme. Dans cette perspective-là, on analyse par exemple les ventes d'auto qui fléchissent cette année, c'est pas une bonne nouvelle, et souvent on découvre qu'il y a des produits, c'est pas que les Chinois veulent pas les acheter, c'est qu'ils en ont déjà un, et c'est le cas du téléphone dit intelligent.
Oui, alors qu'est-ce qui se passe quand on attrape une indigestion, hein? Alors en physiologie, on connaît tous la réponse quand on cède en ouvrant le placard à la douzaine de tablettes de chocolat qui attendaient, que l'on avait promis de jamais toucher. Ben, en économie, là aussi, il peut y avoir un sentiment d'écœurement. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre après ça à une diète, à un changement de comportement ou bien à une reprise du gavage une fois la crise passée, hein? On peut se poser la question. Gabriel Grésillon, dans Les Échos, se l'est posé également. Tout en nous faisant un constat un petit peu plus général, puisqu'on va parler effectivement de la crise du smartphone en Chine, mais aussi de ce qui arrive à Toshiba et à Sharp, qui ne sont pas en très très bonne santé. Pour Apple, Samsung ou Xiaomi, les temps sont devenus beaucoup plus durs en Chine. Même si les chiffres varient selon les sources, la tendance est claire. Le marché des smartphones est saturé. Selon une étude du cabinet IDC, publiée ce lundi par le Wall Street Journal, les ventes ont baissé de 4,3% au premier trimestre,
pour la première fois en 6 ans.
Oui, on parle d'un marché qui est habitué à des hausses de ventes année après année. Et hop, tout d'un coup, ça fléchit.
Et il faut bien comprendre qu'une baisse de 4,3 sur un trimestre, c'est absolument énorme.
Dans un marché de 1,3 milliard de personnes surtout.
Voilà. En janvier, le ministère de l'Industrie et de l'Informatique a même fait état d'un recul en volume de 8%, toujours sur un an. Plus de 90% des Chinois possèdent un smartphone, explique Tom Kang. Non, moi je dirais que c'est plus de 90% des Chinois sont possédés par un smartphone. Hein, je peux dire, il ne faut pas se tromper, comme chez nous, hein, c'est pareil. La Chine est désormais un marché de remplacement. Oh là là là, j'aime pas cette annonce. Qu'est-ce que ça va nous amener ? La Chine est donc arrivée au même stade que la plupart des pays occidentaux, en un temps record étant donné la taille de sa population. Les grands noms des mobiles, aidés la plupart du temps par les opérateurs télécoms, s'y battent à coups d'innovation technologique au marketing. Vous savez, les 250 fonctions qu'on n'utilise jamais. Bon, bref. Pour convaincre les usagers de remplacer leur ancien mobile. Samsung redouble d'efforts, par exemple, en vantant dans tous ses magasins son Galaxy 6. C'est celui sur lequel on peut s'asseoir sans le casser, c'est ça ? Quel dommage. Apple a fait de même avec son iPhone 6, au point que le pays a dépassé les États-Unis dans ses ventes. Xiaomi, la star montante chinoise d'à peine 5 ans, vient de dévoiler son Note Pro de la même taille que l'iPhone 6, mais pour $480 seulement, soit moitié moins cher que le dernier né de la marque à la pomme. La situation semble de plus en plus désespérée chez Sharp, l'ancienne gloire de la high-tech japonaise. On a changé là de sujet. Dans la matinée, le groupe a connu la plus forte chute en bourse de son histoire en s'effondrant de plus, tenez-vous bien, de 30% avant de se ressaisir légèrement.
Et surtout à cause de rumeurs, c'est ce qui est le plus étonnant dans le cas de Sharp.
Eh oui, et la rumeur et la bourse, ça marche bien ensemble. À la mi-journée, son titre perdait encore 24% sur la place de Tokyo, qui, elle, était en progression de 1,2%. Les investisseurs paniquent, c'est ce que vous évoquiez, après avoir entendu les médias japonais annoncer au fil de week-end que le groupe allait tenter une manœuvre désespérée pour essayer de se relancer. D'après le Nikkei, Sharp va procéder dans les prochaines semaines à une exceptionnelle réduction de son capital afin de retomber à un niveau similaire à celui d'une PME. Elle pourrait alors bénéficier d'avantages fiscaux particuliers susceptibles de l'aider à réduire un peu plus rapidement son gigantesque endettement. La société qui devrait annoncer cette semaine qu'elle a encore perdu 200 milliards de yens, 200 milliards de yens, ça fait presque 2 milliards de dollars. Sur le dernier exercice fiscal, après avoir déjà perdu 900 milliards de yens depuis 2011, pourrait ramener son capital de 120 milliards de yens actuellement à 100 millions de yens. 100 millions de yens, ça fait 140 millions de dollars. Ce qui représenterait une réduction, tenez-vous bien, de 99%. L'opération aurait été validée par les grandes banques du groupe qui ont prêté ces dernières années des centaines de milliards de yens à la société pour l'aider à financer sa restructuration. Mizuho Bank et Bank of Tokyo Mitsubishi devraient prochainement encore injecter 200 milliards de yens et allez donc dans l'entreprise en échange d'une énième cure d'amaigrissement. Plusieurs activités devraient être abandonnées et 5000 postes pourraient être supprimés. Si les investisseurs comprennent que le groupe restera soutenu à bout de bras par ses créanciers et les industriels qui détiennent des parts de son capital, ils s'interrogent sur sa capacité de survie à moyen terme. Après avoir massivement misé sur les mauvaises technologies dans les années 2000, le groupe espère qu'il sera porté par les commandes asiatiques d'écrans LCD de petite et moyenne taille. Mais plusieurs entreprises de la région se livrent actuellement à une violente guerre des prix sur ce marché pour séduire les producteurs de smartphones coréens, chinois et taïwanais. C'est les prochains qui seront saturés, probablement. L'un des concurrents les plus agressifs de Sharp n'est autre que le japonais Japan Display, né en 2012 sous l'impulsion de l'État nippon, de la fusion des activités de petits et moyens écrans de Sony, Hitachi et Toshiba. Alors, Toshiba, c'est le troisième, la troisième cible de cette terrible décroissance. Jusqu'à ce week-end, Toshiba surfait sur des promesses d'importants profits. Il pensait pouvoir prochainement annoncer un bénéfice net d'au moins 120 milliards de yens sur l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars dernier. Mais vendredi, le gigantesque conglomérat qui produit des centrales nucléaires, des aspirateurs robots ou des scanners IRM a révélé que le problème de compatibilité qu'il avait identifié un peu plus tôt dans le mois allait finalement le contraindre à revoir la totalité de ses résultats récents et à repousser toute communication sur l'état exact de ses finances. Inquiet, les investisseurs faisaient encore la rumeur, plongeait ce matin le titre du groupe de 16,5% à Tokyo. et les analystes anticipent une poursuite des ventes massives d'actions dans les prochains jours par les grands fonds qui détestent l'incertitude. Toshiba a expliqué qu'il avait dû mettre en place un comité spécial d'audit de ses comptes pour l'exercice allant d'avril 2013 à mars 2014, car il craint que le coût réel de certains grands travaux d'infrastructure n'ait pas été correctement estimé dans la comptabilité de la société. Toshiba redoute plutôt des sous-estimations de ses chantiers, qui pèseraient donc sur la rentabilité espérée de l'entreprise. Des experts extérieurs ont été mobilisés pour plonger dans les comptes de Toshiba, mais ils ne pourront probablement pas clarifier la situation avant le mois de juin. Je trouve que tout ça est terrifiant, parce que d'une part, on sent bien qu'il faut quand même, peut-être à un moment, arrêter de se dire « consommons, renouvelons, consommons, renouvelons ». Et d'autre part, la comptabilité, elle a des drôles de limites. Hein. Alors si on ne sait plus même compter, qu'est-ce qu'on va faire ?
Allez, je ne résiste pas à la tentation de vous bassiner avec un nouveau rapport. Cette fois-ci, un rapport du Fonds monétaire international qui nous dit que trop de finances nuit à l'économie. Et c'est ce qu'on vous a dit à cette émission depuis à peu près 2 ans, d'ailleurs. L'industrie financière, lorsqu'elle se prend au sérieux, nuit à l'économie. En fait, ça suivrait une parabole. Il en faut pour financer l'économie réelle pendant un certain temps. Mais si jamais l'économie financière augmente, eh bien, ça devient nuisible à l'économie. C'est du moins le sens d'un rapport. Ceci dit, ce n'est pas encore la position officielle du FMI, c'est un rapport de ses chercheurs, mais je trouve quand même que la nouvelle est intéressante.
Et moi, je vais vous donner quelques nouvelles d'Apple. On parlait tout à l'heure de ce conseiller australien qui influençait son ministre, pas très bien d'ailleurs, dans le domaine de l'environnement. Eh bien, et vraisemblablement pour laisser la place à un nouvel ordre mondial où le capitalisme serait roi. Eh bien, dans ces rois du capitalisme, il y aurait probablement Apple, on le sait. Et comment est-ce que Apple devient roi du capital ? Entre autres, en se moquant complètement des accords de licence qu'il devrait pourtant avoir obligatoirement, et donc d'exploiter la propriété intellectuelle des autres. Heureusement, il y a un petit peu de résistance. Et Ericsson vient de déposer des plaintes, plusieurs plaintes dans plusieurs pays d'Europe, pour contraindre Apple à respecter au minimum le droit de ceux qu'il spolie.
Beaucoup de technologie au menu de cette émission aujourd'hui. Je vous amène sur un autre terrain tout à fait naturel, celui-là, ou plutôt non, tout à fait pas naturel, puisqu'on apprenait qu'aux États-Unis, l'année dernière, le taux d'effondrement des ruches d'abeilles s'est élevé à 42,1%. On perd actuellement plus d'abeilles pendant l'été qu'on en perd pendant l'hiver. Pour les apiculteurs, c'est une catastrophe, mais je vous rappelle que les abeilles sont directement responsables de plus d'un tiers de tout ce qu'on mange à l'année longue. Alors, c'est un sujet de réflexion majeur qui va appeler une intervention sous peu.
Pas oublier que s'il n'y a plus d'abeilles en quelques décennies, il n'y a plus d'humanité, hein? Rappelez-vous le bien. Ah tiens, dans la série « Les inventions stupides qui servent strictement à rien », une nouvelle application qui vous permet d'écrire comme Einstein. On a mis comme ça dans tout un tas de paramètres. Voilà, la belle écriture d'Albert Einstein. Si vous voulez faire semblant d'Albert Einstein, achetez-vous cette application, vous enrichirez quelqu'un de bien malhonnête et vous vous conduirez comme le dernier des imbéciles et non pas comme Einstein.
Allez, une petite nouvelle pétrolière, puisque la terre a tremblé au Canada la semaine dernière alors qu'un parti de gauche, le NPD, prenait le pouvoir en Alberta, aux surprises, en se glissant entre deux partis de droite, intermède qui, permettez-moi ce pronostic, ne risque pas de durer plus d'un mandat. Alors, on apprenait cette semaine que le gouvernement conservateur est prêt à défendre Keystone XL, le pipeline qui doit passer vers le sud des États-Unis, sans l'aide du gouvernement de l'Alberta, qui lui estime maintenant que le pétrole albertain aurait intérêt à être raffiné en Alberta et créer des emplois en Alberta, ce qui n'est pas une position tout à fait négative quant à moi. Enfin.
François, est-ce que vous connaissez la relation entre le virus informatique et la lettre d'amour ?
Non.
Non, eh bien, elle est très, très, très étroite, puisque les virus sont dans des courriels qu'on vous envoie et qui sont des lettres d'amour. Ils s'appellent « I love you », c'est le bien nommé. Et alors, ça marche, c'est terrible. Figurez-vous que l'inventeur de ce virus a réussi à infecter en 4 jours plus de 3 millions de machines parce qu'il y a quelques esprits crédules qui, en voyant de la part d'une ou d'un inconnu arriver un message figurant « I love you », ont cliqué dessus. Eh bien, adieu les données. Comme en amour d'ailleurs.
Deux petites nouvelles rapides. La première, pour vous signaler que ça y est, c'est fait. L'Italie est sortie officiellement de sa récession. Ça faisait longtemps qu'en Italie, on n'était pas sorti de sa récession. Donc, c'est fait pour elle. Souhaitons que la Grèce puisse lui emboîter le pas dans les prochaines années. Et la deuxième, et celle-là, elle est plus étonnante, Terre-Neuve, elle, est entrée officiellement en récession. Et évidemment, les revenus pétroliers sont en cause dans le cas de Terre-Neuve qui en tire ses principaux financements.
Je vous ai donné des nouvelles d'Apple tout à l'heure, mais je me rends compte que je n'ai pas donné des nouvelles de Google. C'est quand même pas très juste. Quelle est la dernière invention de Google? Eh bien, quand vous allez allumer votre ordinateur, maintenant, bientôt, vous allez tomber sur une petite icône qui vous invite à commander un repas. C'est pas génial? Donc, alors, Google, qui nous gavait la tête, va maintenant nous gaver l'estomac. Imaginons que ce qu'ils nous livreront, ça sera comme les autres, de la graisse et du sel.
Et pour finir, un pôle logistique, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit d'où on peut expédier et recevoir des marchandises. Il y en a un très gros qui va ouvrir à Vaudreuil-Soulanges. Le problème, c'est que ce pôle-là est lié au chemin de fer américain CSX, qui, lui, dessert les ports américains et pas le port de Montréal. Résultat, on est en train de financer avec des fonds publics un pôle logistique qui va nuire au port de Montréal. C'est quand même tout un monde. Et vous l'entendez, Rémi qui nous signale la fin de cette émission. Je vous disais que c'était un homme de pouvoir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On vous remercie d'avoir été là. À plus tard.